France Info.
Thomas Snegaroff en studio, bonsoir Thomas.
Bonsoir Nicolas.
On va voir aussi à quel point les canicules, plutôt fréquentes dans l'histoire, en disent long sur notre rapport à l'environnement.
Ouais, c'est un très bon indicateur. J'ai replongé dans les archives et en effet, je peux vous dire que non seulement les épisodes de forte chaleur, et je regardais Elodie du coin de l'œil, sont fréquents, mais que de fait, le traitement médiatique a profondément évolué avec le temps. Et là, c'est vous que je regarde, Nicolas. Longtemps, la chaleur est accueillie avec joie, insouciance, le retour de l'été, et on se moque gentiment des passants dégoulinant de sueur. Un bon exemple de ce traitement médiatique, ici, à la sortie de la guerre, on est en janvier 1946.
Enfin, la chaleur est revenue. Paris est redevenu Paris plage et Paris slip. Seul le pauvre agent ne peut se mettre à son aise. Et tous ces nudistes ont l'air de vouloir lui donner le bon exemple en se jetant à l'eau. Ils ont bien tort, puisque c'est justement ce qu'ils voulaient leur interdire.
Alors, Paris plage et même
les
Paris slip.
Oui. Heureusement. Car si tous ceux qui en ont envie se mettaient à l'eau, la Seine finirait par déborder.
Évidemment, si voilà. Tout le monde se jetait à l'eau. Paris slip. Vivement mercredi, Thomas Snegaroff, c'est prometteur. On se baigne dans les années 40-50 dans la Seine. On n'entend pas d'angoisse dans ce reportage.
Non, ce genre d'archives, on les retrouve à chaque vague de chaleur des années 40 aux années 70, avec une première évolution en 1976, quand la sécheresse s'invite et pose évidemment des questions angoissantes pour l'agriculture, mais aussi pour les difficultés des travailleurs.
Et le premier changement, il intervient à la fin des années 80.
Oui, à la fin des années 80, prise de conscience du réchauffement climatique causé par les activités humaines qui dépassent le cercle des scientifiques. À l'été 88, se tient la conférence de Toronto au cours de laquelle les chefs d'État et de gouvernement semblent prêts à sortir progressivement du tout carbone. Le GIEC est créé cette même année 1988. La question s'invite donc de plus en plus dans les grands médias et forcément lors de la vague de chaleur fin juillet 1990, à côté des rires et des plongeons dans les piscines, on évoque une question de plus en plus angoissante.
Parlons à présent de la canicule qui règne sur la France. Et comme à chaque fois que la météo s'emballe dans un sens ou dans un autre, du chaud ou du froid, la même question revient. Mais que se passe-t-il donc? Le climat de la planète est-il en train de changer? Les activités humaines ont-elles perturbé le rythme des saisons? Beaucoup de questions et toujours peu de réponses du côté des spécialistes.
Et on voit un changement de vocabulaire. Et puis évidemment, en France, il y a cet événement traumatisant, le drame de la canicule de 2003, un avant, un après. Et l'inquiétude liée au réchauffement climatique est alors beaucoup plus enraciné aussi.
Oui, mais je dois vous avouer, Nicolas, que j'étais quand même étonné de voir à quel point les thématiques actuelles, eh bien, on les retrouvait largement présentes dans les médias il y a 16 ans tout de même. Exemple ici dans le 20h de TF1, le plus vu de l'époque, en pleine canicule, on est le 12 août 2003.
Selon les prévisions des chercheurs, la température moyenne sur le globe terrestre doit augmenter de 3 à 6 degrés d'ici la fin du 21e siècle. Notre été apparaît donc comme une préfiguration de ceux qui arriveront dans les décennies à venir. D'où les appels répétés de la communauté scientifique pour une attitude plus citoyenne des responsables politiques et des individus afin d'économiser l'énergie et réduire la pollution.
Il y a 16 ans, tout était dit, un été qui préfigure le climat de demain et un appel à l'action 16 ans après, dans une ambiance encore plus anxiogène avec la crainte qu'il est peut-être déjà trop tard. L'insouciance des canicules du passé appartient clairement à un monde disparu.